Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est de retour sur les ondes de CFA 88.3. Presque une chronique littéraire, j'ai envie de dire, oui. Avec toi, Jérémy, ce matin. Tu voulais parler de Fahrenheit 451.
Oui, c'est ça. Ben, je voulais faire un petit retour. Là. Je trouve que... Ben, tu sais, faire un petit review d'un bon vieux classique. Là. Dans une ère où la désinformation a prime, où un félon agresseur sexuel il est nommé à la tête d'un pays les plus influents au monde, où le secrétaire américain à la santé et aux services sociaux, c'est un militant anti-vaccin qui soutient que les vaccins causent l'autisme. Je trouvais que c'était bon de retourner dans un de nos beaux vieux classiques.
Ouais.
Tu sais, se donner le goût de pleurer un samedi après-midi. Donc, Fahrenheit 451, en fait, c'est un roman, pour ceux qui l'ont pas lu, là, parce que c'est vraiment, quand on dit un classique, c'est un classique, t'sais, c'est pas nouveau comme livre. C'est un roman d'anticipation dystopique de Ray Bradbury, publié en 1953 aux États-Unis. Son nom, en fait, est tiré du point d'auto-inflammation en degré Fahrenheit du papier. Petite parenthèse comique, là, Ray Bradbury il a appelé des scientifiques pour essayer de trouver justement c'était quoi le point d'auto-inflammation, puis c'est en appelant en fait une caserne de pompiers qui ont répondu Fahrenheit 451, d'où le nom du livre. Puis c'est ça, Fahrenheit 451, là, on va parler un petit peu de Bradbury. Il a été écrit pendant la seconde peur rouge, ou en fait l'ère McCarthy,
okay.
Inspiré par les incendies de livres dans l'Allemagne nazie puis la répression idéologique en Union soviétique. Mais le macartisme, c'est sûrement ça qui est au cœur du livre. Le macartisme, là, en fait, c'est un président, là, McCarthy. Puis, en fait, c'est une période de l'histoire américaine qu'on qualifie aussi de chasse aux sorcières, en fait. C'est basé sur la peur du communisme. C'était une véritable paranoïa de la peur de l'URSS. Le macartisme prend fin l'année que Fahrenheit 451 a été publié. Mais, en fait, le macartisme, là, c'était... Au nom de la peur communiste, il y avait plein de lois qui étaient brisées. C'était une véritable chasse aux sorcières. Des gens mis en accusation, des gens enfermés pour aucune raison parce que t'es un communiste. Donc ça a vraiment été l'ère de McCarthy, qui a été beaucoup critiqué d'ailleurs. Donc si on continue sur l'œuvre de Bradbury, en fait on va suivre Guy Montag. C'est un pompier qui brûle des livres au lieu de les éteindre. C'est ça. Fait que sa job de pompier, c'est pas d'éteindre les livres, c'est de les brûler. Guy Montag évolue dans une société qui apprécie pas les réflexions profondes, la nature et l'autre. Fait que l'autre, la personne, c'est une société vraiment déconnectée entre elles qui vit sur un régime totalitaire et contrôlant. Plusieurs événements, en fait, causent Guy Montag, le personnage principal, à se questionner sur son travail, sur sa place dans la société, entre autres au travers de rencontres et d'événements qui lui arrivent. Et finalement, il décide de se rebeller contre cette société, entre autres en lisant des livres. Donc, lorsqu'il était supposé en brûler, ben il finit par en voler, il les cache. Au début, il fait juste les cacher, il les lit pas. Puis il finit par, dû à diverses rencontres et événements, ben les lire. Et puis ça cause, ben il se fait pourchasser, il se rebelle contre cette société-là. Et... finit par survivre justement en se remémorant de la Bible, qui était probablement la dernière édition là, qu'ils disent dans le livre. On ne sait pas exactement comment ça se conclut, le monde de Fahrenheit 451, mais j'essaie de pas trop... c'est pour ceux qui l'ont pas lu. J'essaie de tourner un petit peu autour, mais ça vaut vraiment la peine de le lire. Là, c'est super intéressant. Puis l'œuvre de Bradbury explore de super façon plusieurs thèmes, dont celui de la censure. Donc, en fait, la censure dans ce livre, c'est une façon de garantir le maintien de la population à un niveau d'abrutissement commun. C'est l'envie qui peut découler d'une personne n'ayant pas lu de livre et vivant dans l'ignorance versus une personne ne vivant pas dans l'ignorance. C'est aussi une des raisons ayant mené au bannissement des livres dans Fahrenheit 451. Il y a aussi le thème de la technologie puis de la consommation de masse qui est aussi exploré et beaucoup critiqué dans le vivant de Bradbury. Je vais faire une petite parenthèse, c'est ça, Bradbury, puis la censure, lui, il était vraiment à cheval là-dessus. Là.
Mm-hmm.
Peu importe c'était quoi, tu ne pouvais pas censurer. Puis ça le fâchait assez si tu essayais de censurer quoi que ce soit, même si c'était des propos choquants ou quoi que ce soit. La censure n'a pas de raison d'être, selon Bradbury.
Okay.
Fait que, ouais, thème de la technologie puis de la consommation de masse est aussi exploré. C'est un monde dans lequel ce roman se situe dans le futur. C'est une critique de la consommation de masse. D'une certaine façon, l'explosion des technologies puis de l'offre médiatique a causé une saturation du marché cognitif. Fait que le marché cognitif, c'est vraiment toute l'offre informationnelle qu'on a.
Ouais.
Fait que c'est un concept d'un sociologue européen. Il appelle ça le marché cognitif. Fait que tout ce qui est disponible à être consommé. En fait, ça cause cette saturation-là cause un abandon de la littérature au profit de, par exemple, des livres condensés, des livres abrégés qui étaient vraiment populaires à l'époque de Bradbury. Moi, je savais même pas que ça existait.
Ouais, c'est ça.
C'était une censure passive de la population de la lecture. Et Bradbury pensait aussi que le rythme incessant de nos vies, les stimulations multiples, la musique, les voitures rapides, les publicités, ça crée tellement de stimulation qu'on n'a plus le temps de se concentrer pour lire.
Ouais.
Tu sais, ça prenait comme toute la place. Puis l'addiction aux chaînes de divertissement, les télés, cause une superficialité puis un manque de sentiment de collectivité. Donc, entre autres, c'est ça, on n'a plus le temps de justement s'instruire ou tout ça. On fait juste consommer du contenu abrutissant, du divertissement, et on ne prend plus le temps, entre autres, de lire, de sortir, de parler aux gens et de se connecter. Fait qu'on se retrouve avec une population complètement aboutie. Puis c'est vraiment ça dans Fahrenheit 451. Et les gens ne doivent pas lire parce qu'ils doivent rester connectés vers l'éternité et plus loin encore. Et lorsque les gens se rencontrent, parce que les gens, ils vont quand même se voir, ils font juste parler des séries télévisées qu'ils ont écoutées ensemble. c'est une dystopie, hein? C'est un peu...
C'est une dystopie, puis en même temps, tu sais, ça a beau avoir ça 70 ans, c'est en 53, fait que ça a beaucoup d'écho avec ce qu'on a aujourd'hui en 2025.
Ben, toutes les critiques de consommation de masse ont raison d'être dans notre société. Et puis, Bradbury faisait ça dans les années...
C'est ça, dans les années 50. Fait que,
dans les années 50, il faisait une critique de la consommation de masse dans les années 50. Il capoterait.
Il capoterait
comment on consomme aujourd'hui.
Il serait un petit peu déçu, je pense, de YouTube. Juste YouTube en général, il serait, je pense, un peu déçu.
Quoique, les audiobooks, justement, je trouve que c'est pas des livres condensés en soi. C'est une façon plus facile pour certaines personnes de pouvoir lire, ce que je trouve qui est... Tu sais, c'est une démocratisation de la lecture. Mm-hmm. C'est une drôle de façon de dire ça, mais... En soi, c'est beaucoup plus facile de lire pour des gens. Hey, pour un dyslexique, lire une brique, là.
Entre autres.
C'est un projet, là.
Oui, complètement. Ou quelqu'un de facilement distrait, justement, parce que. Pas juste manque d'attention, mais tu sais, juste distrait par tout ce qui l'entoure justement, n'a pas le temps ou ne prend pas le temps de lire un livre.
Mm-hmm.
Je me range dans cette catégorie-là, ceci dit.
Oui, c'est ça, exact. Fait que je recommande vraiment cette lecture-là. Il y a certaines dystopies qui vieillissent très très bien puis restent jusqu'à ce jour très à jour dans nos sociétés. Ça nous pousse à réfléchir sur nos consommations de masse, les dérives totalitaires de certains de nos politiciens, wink wink, et la désinformation rampante dans nos sociétés. Puis je recommande aussi 2-3 autres dystopies, j'ai encore un peu de temps. 1984 de George Orwell.
Oui,
très classique. Je recommande en revanche sa version roman graphique qui est vraiment plus digeste.
Ah.
Je sais pas si tu as lu 1984. Là.
Je connais le livre là, parce que ça s'est
personnellement
réapproprié abondamment récemment.
Moi, le lire, super bon livre, mm-hmm. Mais mon Dieu, c'est beaucoup. C'est très ambiancé, très descriptif comme livre. Ça peut vraiment taper ses nerfs facilement.
Ouais,
puis tu trouves
ça
long qu'il décrit qu'il fait sombre.
Ouais.
Et tandis que le roman graphique, tu le vois, c'est super bien fait. Tu le vois que c'est sombre, tu le vois que c'est gris. Puis on comprend très bien c'est qui Big Brother. Puis on comprend très très bien. Je recommande une de mes dystopies préférées, Le meilleur des mondes d'Adam Huxley. C'est l'homologue inverse de 1984. Donc, 1984, c'est vraiment Big Brother, régime totalitaire, et on le voit, tu sais.
Mm-hmm.
Et le meilleur des mondes d'Adam Huxley, en fait, c'est... lui, il disait que c'était douteux que la politique boot on the face puisse effectivement se poursuivre indéfiniment. Donc, on sait c'est qui Big Brother. Lui, il pense pas que ça, une domination politique, c'est de même ça fonctionnerait. Ouais. Sa conviction, c'est que l'oligarchie dirigeante trouverait des moyens moins pénibles et moins coûteux de gouverner, puis de satisfaire sa soif de pouvoir, et ce moyen ressemblerait à ce qui est décrit dans Le meilleur des mondes. Donc, okay. En fait, c'est subversif. Mm. C'est par la consommation de masse que la population se domine elle-même pour l'oligarchie.
Okay.
L'oligarchie dominante, c'est super intéressant, puis je suis d'accord avec lui. Je suis vraiment d'accord que s'il y avait une domination, qui aurait une pérennité dans le temps, là, une domination totalitaire, ça serait comme ça. La servante Carla de Margaret Atwood, de une série télévisée super populaire. C'est un roman qui décrit un futur dystopique proche où la religion domine la politique dans un régime totalitaire, où les personnes sont catégorisées, ont des rôles très spécifiques et où les femmes sont dévalorisées jusqu'à l'asservissement. Ça, avec les règles contre l'avortement, contre la liberté sexuelle aux États-Unis, là, et ça écho en tabarnouche dans La Servante Écarlate de Margaret Atwood. Je vous recommande d'aller lire ça. Moi, ça m'a choqué terriblement. Puis c'était il y a... Ça fait une couple d'années que j'ai lu ça en plus. Fait que j'ai vraiment l'impression qu'on s'enligne très bien vers ça. Ça sera plus une dystopie. Ça va être un roman...
Oui, ben ça, Margaret Atwood a fait beaucoup de blagues. Façon de parler, mais tu sais, elle souligne à quelques occasions de... Moi, je voulais pas faire des prédictions. Là. Moi, je voulais écrire un truc dystopique. Je voulais pas raconter une réalité qui se peut. La date de parution originale, c'est 1985. La version française daterait de 87. Et la série est sur les plateformes depuis 2017.
Oui, c'est ça.
J'ai adoré cette série-là.
De tous les livres dystopiques que j'ai parlé, lui, on s'enligne de plus en plus vers celle-là. Les avancées féministes mais en fait les avancées on recule là en ce moment là. On les perd, puis c'est terrifiant, et je trouve que Margaret Atwood a été très bonne, puis justement elle a fait des blagues comme tu dis. Par hasard elle a peut-être vu dans le futur.
Ouais, c'est ça, elle a mis le doigt sur quelque chose.
Elle s'est pris pour Nostradamus. Pour la petite dernière minute
40
qui reste.
40 ans avant le temps, c'est 85. Fait 40 ans avant le temps.
Fait que pour la petite dernière minute qui reste, je vais vous les faire en... Les derniers livres, je vais vous les faire rapidement. La ferme des animaux de George Orwell, je recommande fortement. C'est une satire de la révolution russe, puis une critique du régime soviétique, en particulier du stalinisme. La destruction libératrice de H.G. Wells, c'est un classique oublié qui est précieux de relire aujourd'hui pour sa pertinence puis sa force prémonitoire intacte. Et les livres de Dune aussi, qui sont en soi une dystopie critique de l'impérialisme américain. Je vous jure, c'est 100% ça. Là. Dune, là, je suis désolé, là, mais il n'y a pas beaucoup de peuples sur Terre qui sont basanés et qui ont des yeux bleus. Hein.
C'est plus rare.
Et il y en a. Ils sont pas partout. Puis, est-ce qu'ils ont subi l'impérialisme américain? Yeah, right. Fait que, allez voir ça. C'est vraiment une bonne critique de l'impérialisme américain. Et encore une fois, de la guerre du pétrole et toutes ces choses-là. Pour tous ceux qui vont lire ça, le spice, c'est le pétrole. À 100%.
Oui. Ce parallèle-là, il existe. Mais semble-t-il, par exemple, la lecture, c'est très ardu aussi.
Oui, c'est pas très digeste.
Parce que, tu vois, ça a pris deux films pour faire juste le premier livre. Fait que,
c'est ça.
Ça peut donner une. Bon, en tout cas. La deuxième version aurait nécessité deux films parce que la première mouture de film
David Lynch.
C'est ça, un seul gros film qui manquait beaucoup de choses.
Ah, puis c'est épouvantable. Ouais.
Si vous voulez rire, vieilli, si vous...
Oh mon Dieu, ben, ça a pas bien vieilli, ça a pas bien sorti, point barre. Là,
à l'époque non plus.
Puis c'était une catastrophe.
Et sinon, tu parlais de romans graphiques. Il y en a un de La Servante Écarlate qui est paru en 2019. Margaret Atwood aurait participé également à la création de ce roman graphique-là, donc à peut-être retrouver en librairie, sait-on jamais. Pour.
Mais oui, des romans graphiques pour Dune, ça serait bien, parce que...
C'est vrai que ça pourrait s'y prêter complètement.
Il a vraiment créé un monde politique. Il a vraiment essayé de recréer comme un univers politique puis les enjeux sociopolitiques. Mais il l'a fait d'une façon aride. Vraiment aride.
Eh bien, j'ai le bonheur de t'annoncer qu'il y aurait un roman graphique qui est déjà sorti.
Ah ouais.
Si je fais une recherche rapide, on me donne le roman graphique 40$ dans les bons libraires. Frank Herbert, roman graphique, livre 2, livre 1. Ouais, ça existe, ça.
Donc, je vous recommande, même s'il n'y a pas de fin à Dune, il n'y a pas vraiment de fin parce qu'il est mort avant de finir ses livres. Mm. Puis c'est son fils qui a fini, mais c'est, ça devient vraiment bizarre.
C'est pas une vraie fin?
Ça devient vraiment bizarre.
Ça devient bizarre, OK. À vous de faire votre propre opinion. On se laisse là-dessus au retour, la conclusion de cette première heure du 9 sur les ondes de CFA 88.3.